Eh bien écoutez, bon réveil et c'est le journal d'Aurore Richard. Bonjour Aurore.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et tous. La menace islamiste touche toute l'Europe et tout l'Occident et elle justifie le relèvement du plan Vigipirate en France à son niveau le plus élevé, explique le ministre de l'Intérieur après l'attentat de Moscou.
Le chef du Kremlin admet désormais lui aussi que c'était une attaque islamiste, mais Vladimir Poutine reste persuadé que l'Ukraine est liée à ce drame qui a fait 139 morts.
Et puis le fondateur de Wikileaks, Julian Assange, va-t-il être extradé vers les États-Unis ? La justice britannique va trancher. Pour avoir fait fuiter des documents officiels américains, il risque 175 ans de prison. Face au terrorisme islamiste, des moyens exceptionnels sont annoncés par le Premier ministre. Gabriel Attal a indiqué placer en alerte 4000 militaires supplémentaires. La France a décidé de relever son niveau d'alerte attentat au maximum après l'attaque vendredi dernier dans une salle de concert de la banlieue de Moscou qui a coûté la vie à 139 personnes. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a justifié cette décision hier soir sur le plateau du journal de 20h de France 2.
La menace est très élevée et nous devons nous armer face à cette menace qui a touché aujourd'hui la Russie. Et je veux, comme l'a fait le président de la République, apporter mon soutien et mes condoléances au peuple russe. Mais elle touche toute l'Europe et tout l'Occident, cette menace. Et on voit que notamment que l'État islamique, qui est l'auteur des 8 derniers attentats déjoués en France, l'État islamique a menacé beaucoup de pays européens, la France notamment. L'Allemagne a déjoué encore des attentats comme l'Autriche en décembre dernier. L'État islamique est capable désormais de pouvoir enclencher des attentats à distance, puisque ce qu'on comprend de l'attentat en Russie, d'après nos services de renseignement, c'est que des gens à l'extérieur, dans d'autres pays, ont pu donner des ordres à des gens à l'intérieur d'un pays pour passer à l'acte de manière coordonnée avec le massacre qu'on a vu. Et donc ça, c'est très nouveau et il faut qu'on fasse particulièrement attention.
Et en Russie, l'enquête se poursuit suite à cette attaque. Le discours de Vladimir Poutine a quelque peu changé. Hier soir, et contrairement à sa première allocution, le président russe a admis qu'il s'agissait d'une attaque islamiste, mais il continue de sous-entendre qu'il y a un lien avec l'Ukraine. Un exercice d'équilibriste que nous explique notre correspondant en Russie, Sylvain Tronchet.
Plus de 48 heures après la revendication du groupe État islamique, Vladimir Poutine a donc prononcé IGIL, l'acronyme qui désigne Daesh en russe. Le chef du Kremlin est même allé jusqu'à admettre que les membres du commando étaient des islamistes radicaux. Cela devrait, en toute logique, suffire à désigner le coupable. Mais non, dans la minute qui a suivi, le président russe a immédiatement retourné le viseur vers Kiev.
Nous savons par qui cette atrocité contre la Russie et son peuple a été commise. Nous voulons savoir qui l'a commandité. Et la question se pose, à qui cela profite-t-il? Cette atrocité ne peut être que le maillon d'une série de tentatives menées par ceux qui, depuis 2014, sont en guerre contre notre pays aux mains du régime néo-nazi de Kiev.
Dans sa logique toute personnelle, Vladimir Poutine a également noté que si les États-Unis désignaient eux-mêmes Daesh, c'était sans doute pour protéger le régime de Kiev. Kiev qui serait, selon lui, en train de créer de nouvelles jeunesses hitlériennes. Les islamistes, les néo-nazis, les Ukrainiens, voilà donc la coalition des ennemis de la Russie qu'a désigné le maître du Kremlin. Mais son porte-parole l'a promis hier, il se fiera au résultat de l'enquête.
Les détails de Sylvain Tronchet et 7 suspects sont actuellement en détention dans cette affaire. À Gaza, la guerre se poursuit malgré l'appel du Conseil de sécurité de l'ONU. Un cessez-le-feu immédiat pour le mois du Ramadan. Une résolution inédite depuis le début de la guerre. Cette fois, les États-Unis n'ont pas mis de veto. Ils ont fait le choix de s'abstenir. Mais cela n'implique pas de changement de cap, assure Washington à son allié israélien. Mais Israël, de son côté, déplore cette décision qui nuit, selon les autorités, à son effort de guerre et à ses efforts pour libérer les otages toujours retenus par le Hamas à Gaza.
6h34 sur France Culture, c'est la suite du journal d'Aurore Richard, un procès en pleine élection pour Donald Trump.
Et c'est injuste, ce sont les mots du candidat républicain à la présidentielle américaine après avoir appris qu'il allait être jugé au pénal à partir de mi-avril. Un procès dans l'affaire des pots de vin versés à une actrice de film pornographique. L'ancien président des États-Unis a en revanche bénéficié de la clémence de la justice dans une autre affaire, dans le dossier de sa condamnation pour fraude. Son amende est considérablement réduite et passe de 450 millions de dollars à 175 millions. C'est une journée décisive pour Julian Assange. La haute cour britannique doit rendre sa décision en fin de matinée concernant l'extradition du fondateur de WikiLeaks. Il est poursuivi par les autorités américaines pour avoir fait fuiter plus de 700 000 documents officiels, révélant notamment des crimes de guerre en Irak et en Afghanistan. S'il est envoyé aux États-Unis, Julian Assange risque de finir ses jours en prison. À Londres, Richard Place.
C'est peut-être la fin d'un marathon judiciaire. Si les deux juges décident aujourd'hui de rejeter son appel, Julian Assange n'aura plus de recours au Royaume-Uni. Ses défenseurs ont déjà fait savoir qu'il saisirait alors la Cour européenne des droits de l'homme, mais ils redoutent que son extradition soit rapide, sans attendre la CEDH. Pendant les deux jours d'audience, le mois dernier, le camp Assange avait une nouvelle fois mis en avant sa santé fragile et même le risque de suicide en cas d'extradition. De son côté, l'avocate de l'administration américaine a évoqué les soins cliniques et psychologiques pendant sa future détention, le fait aussi qu'il ne soit pas, comme il le redoutait, incarcéré dans la prison de haute sécurité de Florence, dans le Colorado, et même la possibilité qu'il purge sa peine en Australie, son pays d'origine. Pour l'heure, c'est depuis la cellule de Belmarsh, l'un des établissements pénitentiaires les plus durs du Royaume-Uni, qu'il attend cette décision. Il y est enfermé depuis 5 ans.
Les explications de Richard Place. Le président français a félicité son nouvel homologue sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, candidat anti-système, vient de remporter largement l'élection dès le premier tour. Alors qu'il y a seulement 10 jours, l'homme de 44 ans était en prison. Le plus jeune président de l'histoire du Sénégal a déjà indiqué ses priorités, la réconciliation nationale, la refondation des institutions et l'allègement sensible du coût de la vie. Deuxième jour en Guyane pour Emmanuel Macron. Hier, le chef de l'État s'est emparé du problème de la pêche illégale pour ce département français frontalier avec le Brésil. Il a déploré la prédation des voisins. Il s'est engagé à multiplier les opérations de démantèlement. Autre sujet pour le président de la République, celui de l'orpaillage illégal. Cette pratique a coûté la vie à plusieurs militaires ces dernières années. Et face à la proposition d'installer une filière légal, Emmanuel Macron s'est montré plutôt ouvert. Et puis en France, la fin de la grève a été votée par les journalistes de la Provence, un quotidien qui appartient au milliardaire Rodolphe Saadé. Malgré tout, le combat n'est pas terminé. On ne transige pas avec la liberté éditoriale, écrivent les syndicats. Le mouvement a été levé suite à la réintégration du directeur de la rédaction, mise à pied à cause d'une une sur la visite d'Emmanuel Macron à Marseille, jugé ambigu par la direction. La météo et un ciel très nuageux ce matin, quelques pluies également. Toute la France est concernée, sauf la pointe de la Bretagne. Côté température, il fait plutôt doux ce matin, minimum 6 degrés jusqu'à 14 sur le pourtour méditerranéen.